deux ou trois passages, nous lirons deux ou trois passages, en commençant par l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment par révélation, le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître aux filles des âmes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps, et co-participant de sa promesse dans le Christ Jésus, par l'Évangile, lequel je suis devenu serviteur, selon le don de grâce de Dieu qui m'a été donné, selon l'opération de sa puissance. Car au chapitre 4, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Verset 11, et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer. Mais que, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Dans la première épître à Timothée, chapitre 3, cette parole est certaine, que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais dit, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa maison, sinon ses enfants soumis en toute gravité. Verset 8. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avis d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi, dans une conscience pure, et que ceci aussi soit premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'il serve étant trouvé irréprochable. Et au verset 14, je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Encore un verset, toujours en rapport avec l'Assemblée, dans la première épître aux Corinthiens, en vue de l'administration, première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Au verset 2, « verset premier nous signale le fait très douloureux auquel se rapportent les pensées de l'apôtre. Et vous êtes songé d'orgueil et vous n'avez pas pu tourmener d'œil afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé vous et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Votre ventrie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte comme vous êtes sans vin. Au verset 9 de ce chapitre. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs, non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, puisqu'ainsi il faudrait que vous sortiez du monde. Et maintenant je vous écris que si quelqu'un appelé frère est fornicateur ou avare ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne, au ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, afin que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous ne jugez-vous pas ceux qui sont dedans, mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous-même. Une pensée ou une vérité qui a, semble-t-il, rapidement, plus ou moins rapidement, disparu dans ce qui porte le nom d'Église, c'est que le Seigneur, après son œuvre accomplie sur la croix, le Seigneur s'est employé, il a envoyé le Saint-Esprit. Une fois qu'il a été glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Il y est toujours. Il ne l'a pas envoyé pour rien. Et le Saint-Esprit n'est pas depuis 20 siècles sur la terre pour ne rien faire. Eh bien, une constatation qui s'impose dans la mesure où on peut avoir quelques connaissances de l'histoire de l'Église, et c'est assez facile, que très tôt, on n'a pas tenu compte du Saint-Esprit comme on aurait dû le faire. Et pour parler des derniers jours, ou du siècle dernier, du réveil du siècle dernier, ceux qui ont été les instruments dont le Saint-Esprit s'est servi pour produire ce réveil, pas un réveil au milieu des païens, un réveil dans ce qui porte le nom de chrétien, eh bien, on peut dire que le grand péché de l'Église chrétienne professante des derniers jours, sa grande faute, ce grand péché fondamental qui explique tous les désordres, c'est d'avoir méprisé le Saint-Esprit, de n'avoir pas tenu compte du Saint-Esprit. Quelle place a-t-il dans ce grand système chrétien? Dieu le sait. Nous pouvons parfois être amenés à découvrir que le Saint-Esprit est bien loin d'avoir la place qu'il devrait avoir, on ne se préoccupe même pas de lui. Et cela ne nous surprendrait pas tellement, parce que nous pouvons tous reconnaître que le Saint-Esprit que chacun de nous a, sans quoi il n'est pas un état, non, il n'est pas un chrétien, il n'est pas dans l'état chrétien. Le Saint-Esprit dit d'une fois, nous allons, nous venons, nous agissons, nous parlons, comme s'il n'était pas en nous. Et inévitablement, nous en supportons des conséquences et des dommages. Le fait peut-être majeur de toute la période chrétienne, c'est celui-là. Jamais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est descendu. Il agissait. Il agissait dans un Abraham ou d'autres. Il agissait. Mais il est descendu pour demeurer. Et il habite dans des croyants, dans des individus. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Mais en outre, l'Assemblée est une habitation de Dieu par l'Esprit, trouvons-nous dans l'Épître aux Éphésiens. L'Assemblée tout entière, ce soir, en cet instant, l'Église existe. Il y a un nombre certainement très grand, des millions de chrétiens disséminés par toute la terre. C'est tous ces millions de chrétiens dispersés par toute la terre forment l'Église au sein et la maison de Dieu forme au sein de laquelle le Saint-Esprit habite et agit. Le Saint-Esprit agit au dehors pour amener les âmes à la conversion, mais il a une action dans l'Église. Et l'Église avait une très haute mission, encore une fois. Et l'Assemblée ici d'Hébreux a une très haute mission. Une assemblée de 3 ou 4 frères, où qu'elle soit, établie par le Seigneur, a une mission aussi haute que l'Assemblée la plus nombreuse et la plus riche en dons. Cette mission locale est de représenter le Seigneur et d'être, comme nous l'avons lu, la colonne et le soutien de la vérité. Une erreur de l'Église, c'est l'Église professante, ça a été de laisser dire et de propager même que l'Église enseigne. Jamais nous ne trouvons cela dans l'Écriture. L'Église n'enseigne pas. Dieu donne des dons pour l'enseignement et pour d'autres services. Et l'Église, elle est la colonne et le soutien de la vérité. Quand elle n'est pas cela, elle est évidemment la colonne et le soutien de l'erreur. Et c'est bien la position de la majorité des personnes qui portent le monde chrétien. S'il y a eu une séparation qui a été produite au siècle dernier, elle n'a pas été le fruit d'une décision prise par des frères, par des chrétiens, pas du tout. Ne disons pas cela parce que c'est moralement et fondamentalement faux. Ils ont été amenés à se séparer du chrétien qu'ils aimaient d'ailleurs et avec larmes parce que le Seigneur les a appelés à cela. Et il a agi par son esprit, encore une fois, c'est le Seigneur agit par son esprit et il agit dans les saints. Ceci est important, non pas pour que nous ayons de la nous soyons conduits à avoir des prétentions parce que une assemblée locale formée par des frères qui ne comptent pas dans la société du monde et en général qui ne cherchent pas à être en évidence dans la société du monde, eh bien, ce n'est pas parce que nous sommes assurés que nous sommes sur un terrain très sûr et que sur le terrain que le Seigneur nous a fait connaître, ce n'est pas pour cela que nous devons nous prévaloir du privilège que le Seigneur nous accorde aux confrères. Et si les frères sont affaires au Seigneur, ils réaliseront cette réunion autour de lui au nom du Seigneur en étant conscients qu'ils sont les derniers de tous les hommes, cela ne leur fait rien du tout. Ils sont gardés d'avoir une bonne opinion d'eux-mêmes. Avoir l'état qui consiste à avoir tout le contraire d'une bonne opinion de soi, c'est toujours le bon état. Toujours celui que le Saint-Esprit produit. Et cela n'est pas l'effet d'un caractère ou bien l'effet d'une l'application d'une volonté personnelle. Rien, mais en rien. Dieu n'a pas besoin de la chair, il est toujours contre elle. La chair qui fait le mal publiquement ou la chair qui est pleine de bonnes intentions, Dieu est contre elle dans les deux cas. C'est pas pour rien qu'il est écrit que nous sommes des morts, nous avons été mis à mort en Christ. Nous sommes morts avec Christ. La mort de Christ est la nôtre, et la mort du vieil homme, mais passons. Alors, cette pensée que le Saint-Esprit est là pour former l'Église et pour que l'Église représente le Seigneur pendant son absence, c'est son épouse. C'est son épouse. Nous oublions cela aussi. Une assemblée, c'est l'assemblée locale du brut, n'est pas l'épouse de Christ, mais la représente. Et elle a localement, dans la mesure de sa fidélité, elle a l'occasion de procurer au Seigneur toutes les joies d'une épouse fidèle à l'égard de son époux. C'est une très haute mission. Il n'y a rien de pareil dans le monde, bien entendu. Rien de si élevé, de si glorieux, en même temps de si humble. L'Assemblée n'enseigne pas du tout. Encore une fois, la séparation, la séparation dans tous les temps, et encore dans les derniers temps, si l'on veut, n'est-ce pas, cette séparation est le fruit d'une opération divine, agissant dans des cœurs et des consciences, autrement, les frères du réveil auraient été comme les autres, ils étaient des chrétiens, et des chrétiens, ils auraient pu être des chrétiens mondains, partageant leur vie entre... La partageant en disposant d'une part pour les affaires du monde, de l'autre pour les affaires de Dieu, et il y a là un état mélangé qui ne correspond pas à la pensée du Seigneur quant à son Église, qui doit être toujours pur dans ses sentiments, c'est-à-dire en ayant Christ comme objet. Individuellement, c'est évidemment la part de chaque croyant, sa responsabilité, voilà. Nous devrions, chers frères et sœurs, dans notre vie chrétienne et notre service, il y en a, nous devrions demander au Seigneur qu'il nous donne d'agir de sa part et pour lui. Alors notre travail est bon, et le Seigneur nous bénira en nous tenant toujours dans la petitesse, ce qui est une grande grâce. Quand l'Assemblée, quand la dernière âme qui va faire partie de l'Assemblée sera intégrée dans le corps, si je peux dire, l'Église partira. Le Seigneur l'enlèvera. Elle n'est pas de la terre. Répétons encore une fois, le Seigneur n'a pas donné une bénédiction terrestre à l'Église. Pas une. Il n'en a pas une. Sans doute, il peut bénir l'Église. Il peut nous bénir dans notre travail, dans nos relations, dans nos affaires, mais ce ne sont pas des bénédictions proprement spirituelles. Quant aux bénédictions propres de l'Église, eh bien, il n'y en a pas une qui soit de la terre, pas d'une. Toutes les bénédictions sont spirituelles dans le lieu céleste, en Christ, les avons toutes. Les bénédictions terrestres sont trop inférieures à la position de l'Église. La position de l'Église, c'est une position céleste. Il n'y a que les choses divines et célestes qui peuvent être à la hauteur de la position de l'Église. Nous n'avons rien à envier à personne. Les gloires du monde ne font pas envie à un chrétien, rien. Au contraire, sans juger rien ni personne, nous savons ce que c'est qu'un inconverti, nous l'avons été. Nous les comprenons fort bien, ces pauvres gens qui se trompent. Et que l'ennemi entraîne dans la mort, vers la mort éternelle. Mais notre devoir vis-à-vis d'eux, premier devoir, c'est de montrer par notre comportement qu'il y a un autre chemin que le leur. Il y a un autre chemin que tous les leurs. Il y a des quantités de chemins dans ce monde ouverts devant les hommes pour aboutir à un bonheur que l'on veut bien dire certain et qui ne l'est jamais. Et l'Église était là pour dire et montrer dans ce monde, et les saints individuellement, pour dire, il y a un autre chemin, voilà le chemin de la vie, nous le connaissons, venez, vous ne serez pas déçus. L'Église est là pour rendre au monde le plus grand de tous les services. Aucun progrès dans la société ne peut être comparé aux bienfaits que l'Église fidèle ou que des chrétiens fidèles peuvent rendre au monde en montrant qu'il y a quelque part quelque chose qui répond aux besoins inavoués ou non de tous les hommes. Elle est, l'Église est divine, par conséquent, elle est à même, elle doit être à même, et dans nos dernières heures, de ces derniers jours, n'est-ce pas, nous devrions être à même de dans notre mesure, de mettre en évidence que nous détenons le secret du bonheur absolu. Ce qui ne nous rendra pas fiers pour cela, pas plus, au contraire, cela nous rend compatissants à l'égard de tant de personnes égarées. Et de tant de personnes d'élite, nous pouvons dire comme des gens de mauvaise vie, peu importe, tant de personnes d'élite qui s'illusionnent et qui pensent que tous les exploits qu'elles accomplissent auront une valeur définitive, pas rien du tout. Tout cela sera détruit. C'est très sonnel l'état du monde. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis du monde, c'est évident. Et alors, faisons encore quelques remarques sur ce qu'est une assemblée locale. On pense sans entrer dans beaucoup de détails, mais la grande affaire, avant tout, que nous soyons tous bien, toujours conscients que nos relations essentielles, vitales, sont avec Jésus qui est dans le ciel. Nous quitterons la terre sans l'avoir jamais vue. Et c'est celui que nous n'aurons jamais vu que nous appelons notre ami suprême, et nous ne mentons pas. Et le Saint-Esprit qui est en nous nous rend conscient de cette relation entre Christ et nous d'une façon inexprimable. Inexprimable. Que le Seigneur fasse la vie de tous les siens ici, ceux qui sont siens ici, soient enrichis d'un jour en jour, de jour en jour. La vie de Christ en eux. Et si nous perdons cela de vue, nous risquons d'être des témoins de rien du tout. Nous ne sommes pas pour la terre comme des inconvertis, et notre témoignage quant au fait que nous sommes du ciel devient faible. Un chrétien heureux en Christ est toujours un bon témoin, même s'il ne cherche pas à l'être. Sa vie parle. Alors, je voulais dire encore un mot sur une assemblée locale. C'est quelque chose, une assemblée locale. Ce ne sont pas nos devanciers qui les ont inventés, ces groupements-là. Pas du tout. Ils n'ont pas décrété un jour, ne sont pas réunis, n'ont pas eu des rencontres et des réunions pour établir des statuts et des règles qui régiraient leur comportement collectif à partir de tel moment. Et voilà. Rien du tout. Ils n'ont rien régi, rien établi. Il n'y a pas de code. Non. Le Seigneur les a lui-même appelés à se séparer. Et le Seigneur peut bien appeler tout le monde. Quand il convertit une âme, aujourd'hui il a converti sûrement bien des âmes, il a touché des âmes et il les a orientées d'une autre manière. Il n'a demandé conseil à personne. Heureusement, quand on a affaire à Dieu, tous les obstacles s'en vont. Quand on ne l'a pas, les obstacles se multiplient. Et c'est vrai dans les détails. en tous les détails. Voilà donc une assemblée locale. Il y en a encore, grâce à Dieu, un certain nombre dans notre pays, en Europe, en Occident et ailleurs. Il y a encore un certain nombre. Ce que l'on peut demander, c'est que le Seigneur veuille maintenir à ces assemblées le caractère qui est celui que lui approuve. Et là, nous n'avons rien à inventer non plus. Et nous avons dans l'Écriture des instructions sur la manière dont nous avons à nous comporter. Et le Saint-Esprit peut rendre pour nos cœurs ces instructions, il peut les rendre intelligibles. Et il peut nous conduire à les mettre en pratique. Et alors, quelques points sur cela. D'abord, nous voyons que dans l'Église, le Seigneur a donné des dons, et l'Église tout entière. Et dans l'assemblée du bruit ici, il y a sûrement des dons, c'est là peut-être qu'il en manque, comme ailleurs, mais enfin, ici, si on en manque, il faut en demander à celui qui en donne. Désirer avec ardeur, désirer, et c'est lui qui peut produire le désir. Si on ne désire pas les choses de Dieu, un don, là. Le désir pourrait être charnel, bien entendu, mais ce n'est pas ce que le passage suppose. Si on ne désire pas, souvent c'est qu'on a le cœur ailleurs. Si notre cœur est enfoncé dans les affaires de la vie, il est évident que tout croyant que nous soyons, tout chrétien que nous soyons, bien, notre intérêt pour les intérêts du Christ ne seront jamais bien forts. Bien évident. C'est une question qui se pose pour nous tous. Voilà donc un rassemblement. Eh bien, le Seigneur s'occupe de son Église et il a donné des dons. Il y a plusieurs, nous trouvons quelques passages, nous avons lu un passage, il y en a d'autres. On sait. C'est donc de l'Esprit. C'est donc pasteur, donc docteur, donc prophète, évangéliste, essentiellement en Éphésiens, dont on trouve d'autres peut-être ailleurs. Mais n'entrons pas dans les détails. C'est le Seigneur qui les donne, les dons. Ce n'est pas les frères, les groupements, l'assemblée de frères qui un jour désigne un tel frère comme étant un pasteur. C'est le Seigneur qui donne les dons en opérant dans le croyant par son esprit. Il peut donner le don prophète, le don pasteur. N'entrons pas dans le détail de l'application et le caractère de ces dons, je voulais simplement signaler leur existence. De sorte que chacun de nous, et quand un homme a reçu du Seigneur un don, un chrétien, cette personne-là, cet homme, ce frère-là, il le sait. Et il le sait, c'est pas parce que son frère le lui a dit, mais il le sait, c'est parce que le Seigneur le lui fait. Le pénètre de cette pensée-là, c'est le Saint-Esprit qui, lui fait connaître, agite en lui pour lui donner la capacité d'accomplir son service du corps du pasteur, du prophète, du docteur ou d'évangéliste. Voilà les dons. Il est très souhaitable que des frères souhaitent demander des dons, nous trouvons ailleurs, il est désiré avec ardeur des dons spirituels et surtout de prophétiser, pour l'instant on peut l'être. Et ce désir témoigne du fait que l'âme ne s'endort pas, que le chrétien ne s'endort pas. Et en passant, nous pouvons bien nous demander, chers frères et sœurs, si nous sommes tous exercés pour, dans l'assemblée à laquelle nous nous rattachons, pour au moins prier pour le bien de l'assemblée. La prière n'est pas un don, mais elle est fondamentale, elle est c'est un service fondamental pour la vie d'une assemblée et des assemblées en général. Et alors là, les sœurs ont le champ libre aussi bien que les frères. Les sœurs, il ne leur est pas permis de parler, le Seigneur l'a interdit, mais elles ont une place qui n'est pas moins utile et veuille le Seigneur faire que et chacune se rend de plus en plus consciente de la mission qu'il attend de chacune d'elles. Les sœurs qui disent c'est les frères qui font tout, ce n'est pas vrai du tout. Nous dirons un mot de cela un peu tout à l'heure. une merveille, une assemblée locale. Et si les frères et sœurs, nous étions tous très spirituels et pieux, eh bien, nous connaîtrions un bonheur incroyable. Parce qu'il n'y aurait pas de, gêne dans l'esprit ne serait pas gêné, et la communion des saints entre eux, et la communion des saints avec le Seigneur et avec le Père, prendrait un caractère, une profondeur que nous ne soupçonnons pas. Toute notre vie serait changée, les effets sur notre vie en seraient changés. Et non pas par un effort venant de nous-mêmes du tout. Eh bien, demandons à Dieu, le Seigneur, qui donne des dons nécessaires. Si un frère est un don, il est responsable de l'exercer. Si un frère a un don et que le Seigneur manifeste de cette manière sa présence et son action dans ce frère, chacun est tenu de reconnaître Dieu dans les siens, et selon la manière où il se manifeste. On peut très bien avoir à parler à quelqu'un qui est un docteur, à l'occasion avoir à lui parler, lui faire une remarque sur ceci ou cela, mais nous sommes tenus de reconnaître son don. Nous allons beaucoup plus loin. Si nous connaissons un ecclésiastique, haut placé même, ou bien ordinaire, mais qui est un don, et qui est un don d'évangéliste, je dis, je le reconnais. Dieu se manifeste là. Qui suis-je pour refuser de reconnaître Dieu dans la personne qu'il trouve bon d'employer? Qui suis-je? Qu'il y ait du désordre dans l'Église, nous savons, mais nous sommes tenus de reconnaître Dieu partout où il se manifeste. C'est une forme de l'humilité, et c'est très important. Et même il arrive que dans les assemblées, quelquefois, à la suite de circonstances qui ne sont pas pour la paix, il arrive que nous manquons en ne voulant plus reconnaître le don de tel ou tel frère qui peut-être ne nous a pas été très agréable. Nous devons reconnaître son don, sans reconnaître un manquement s'il a manqué. Mais toutes les choses dans l'Assemblée se reviennent à des questions d'ordre moral et spirituel, toujours. Le Seigneur n'a pas laissé les siens dans ce monde, s'arranger eux-mêmes, décider eux-mêmes de la manière dont ils auraient à vivre individuellement ou ensemble. Non, il leur a tracé le chemin. Les assemblées sont là. Mais ce n'est rien si on fait partie d'une assemblée et si on dort dans l'assemblée, il est évident que ce n'est pas un avantage de faire partie d'une assemblée et y dormir. Avantage pour personne. Et c'est une chose à quoi nous avons à veiller. Quiconque fait partie de l'assemblée devient responsable de tout ce qui se passe dans l'assemblée. Et il ne doit pas fermer, comme nous l'avons vu, les yeux sur, alors nous arrivons à notre point, les yeux sur le mal qui peut se produire dans l'assemblée. Et là où aucun élément humain doit intervenir. Aucun. Ce n'est pas l'amour, cela. Il n'y a pas de passe-droit dans l'assemblée. Aucun. Un des témoignages brillants que l'Église aurait dû montrer, quelle est la vérité, d'abord. C'est la colonne, le soutien de la vérité. Quelle vérité? Doctrinale, oui. Morale, oui. C'est admirable, l'Assemblée, une assemblée locale. Eh bien, que le Seigneur veuille produire un réveil dans chaque assemblée, toutes les assemblées auxquelles nous appartenons, produire un réveil dans les consciences et dans les cœurs, pour accroître sa joie dans l'assemblée et accroître la joie des saints en lui. Car cela va ensemble. Le pasteur est un don rare. Le pasteur s'occupe des âmes, des plaies, des blessures, des chutes. Et encore une fois, l'Assemblée ne doit pas tolérer le mal dans son sein, pas seulement le mal grossier. Et nous avons à veiller à ce que la volonté de l'homme n'affaiblissent pas l'autorité du Seigneur dans l'Assemblée. C'est vite fait. L'autorité de l'homme, cela s'est vu plus d'une fois. Des frères qui, perdant le contact avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, et cela d'une façon plus ou moins durable, finissent par se croire quelque chose et à vouloir être chef. Il n'y a pas de chef dans l'Assemblée, il y en a un pour toute l'Église et pour chaque Assemblée locale. Est-ce à dire que nous ne devons pas reconnaître l'autorité d'un frère? Oui, au contraire, comme disions tout à l'heure, l'autorité que le Seigneur lui confère, autorité morale, sa communion avec le Seigneur, la piété, sa piété, ses relations avec Christ, sa connaissance même de la parole, une connaissance vivante. Un tel frère, le Seigneur inclinera les cœurs à ce que tout le monde le reconnaisse. Mais si ce frère se met en avant sa propre personne, on ne peut pas reconnaître cela. Un frère bien doué et pieux peut très bien être entraîné un jour à un écart. Là, on ne peut pas l'approuver. Comment réagir? Tout cela dépend des circonstances du moment. Mais en tout cas, on ne peut pas passer sur cela. Et nous sommes là réunis autour du Seigneur, dans sa présence, lui seul est tout, lui seul peut nous bénir, et c'est à lui que nous, et c'est sa gloire que nous devons avoir en vue. Les intérêts du Seigneur, les intérêts de Christ. Selon ça dans l'Écriture, que sont les intérêts de Christ? Ce sont l'Église. Seigneur, fasse que les frères, et il y a des frères qui sont à cœur, qui servent le Seigneur et qui l'aiment, que le Seigneur fasse que les frères qui sont là les plus en vue soient aussi les plus humbles. Oui, les plus humbles. Ça va tout à fait bien ensemble, au contraire. Et qu'ils soient des serviteurs. Il n'y a pas de maître, pas de dominateur. Qu'ils soient des serviteurs. Serviteurs des autres. Que, ayant accompli leur tâche, ils ne pensent pas à être rémunérés pour la tâche qu'ils ont accomplie. Et qu'ils restent en ayant toujours à cœur de mettre en évidence la gloire, le nom, la personne du Seigneur. Voilà. L'Assemblée est sur la terre pour cela. Pour montrer qu'il y a quelque part un groupe de personnes qui, au lieu de chercher à honorer les âmes, un homme, plusieurs hommes, cherchent à honorer le Seigneur. Et comme le Seigneur désire l'être. Ils n'ont pas d'initiative à prendre, alors là, la piété, la fidélité dans la prière, la connaissance de la parole, mais la connaissance spirituelle et non pas littérale ou extérieure, la connaissance de la parole par l'Esprit-Saint joue un rôle fondamental, vital, bien entendu. Les frères utiles sont des frères pieux, nécessairement pieux, qui ont affaire à Dieu. Un homme pieux, c'est un homme qui a affaire à Dieu, il a des rapports avec Dieu, des rapports soutenus avec Dieu, et évidemment dans la présence de Dieu, le moi disparaît. Il n'y a pas d'autre moyen pour être séparé d'eux, pour être débarrassé de soi. Les questions d'administration de l'Assemblée, nous le voyons, quand un mal surgit, par exemple, eh bien, l'Assemblée doit s'en occuper. Mais l'Assemblée, si on doit en arriver à l'excommunication de quelqu'un, il faut bien entendu se livrer à tous les exercices nécessaires pour cela, et il dépend du Seigneur pour cela, qui peut donner la lumière, instruire un cas n'est pas une chose si facile que cela, et le régler non plus. On a besoin du Seigneur pour tout. Mais de toute manière, si on doit en arriver à découvrir qu'une telle personne est un méchant, par conséquent qu'elle doit être ôtée, l'Assemblée, c'est l'Assemblée tout entière, frères et sœurs, n'est-ce pas, qui lui prononce l'excommunication. Mais elle l'a fait. Alors ceci est de toute importance, parce que nous sommes tellement prompts, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, tellement prompts à agir en juge et à nous poser en personne supérieure à celui qui a manqué et que l'on est obligé de rejeter, n'est-ce pas? On nourrit une satisfaction de soi en étant, n'est-ce pas, en se considérant comme des juges. C'est tout à fait l'opposé de ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a pour l'excommunication légitime de quelqu'un qui a déshonoré le Seigneur, et pas d'abord l'Assemblée, le Seigneur. L'Assemblée dans la mesure où c'est le Seigneur qui est en vue. Autrement, l'honneur des frères individuellement, nous n'avons pas de considération de ce genre-là à avoir. Notre honneur ne compte pas. Mais l'Assemblée qui prend ainsi une décision et qui la réalise, elle le fait. En reconnaissant un frère, et même plusieurs, doivent devant le Seigneur en prenant cette décision-là, dans toute l'Assemblée réunie, et au nom du Seigneur, en disant, nous sommes participants du mal qui a été commis. Nous avons part à ce mal-là. Nous le confessons comme nôtre. Nous confessons. Au lieu d'être des juges, et d'un côté puis le coupable de l'autre, nous nous mettons au niveau du coupable. Et nous, voilà, nous confessons cette faute comme étant la nôtre. Et on a raison de le faire, car bien des chutes qui ont lieu dans les assemblées se produisent parce que l'ensemble de l'assemblée n'est pas bon. Ou parce que, s'il y a de la vanité, de la mondanité ou d'une autorité personnelle dans l'assemblée, il est évident que cela ne plaît pas au Seigneur et qu'il peut permettre tout à coup qu'une plaie surgisse, à l'égard de laquelle personne ne peut rester indifférent. Mais alors cela montre à l'évidence que nous sommes tous coupables du mal qui est apparu un jour. Que le Seigneur nous accorde de peser tout cela. Rien dans le monde est semblable à une assemblée de personnes insignifiantes quant au monde, mais si le Seigneur est au milieu d'elle, il n'y a rien de pareil au monde. Rien de si glorieux, de si merveilleux, et pas de lieu où on puisse trouver un bonheur pareil à celui-là. Mais il faut faire attention. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments autour de nous qui favorisent la vanité, par exemple. On est vaniteux, on a un niveau de vie bien supérieur, etc. Non, inutile d'insister. Mais le Seigneur peut aider les siens dans les jours où nous sommes, où le moi, le monde, l'orgueil, la volonté, le désir de s'élever, n'est-ce pas, n'ont pas de limite. Le Seigneur peut garder les siens près de lui. Comme un bon berger entoure ses brebis et leur donne la satisfaction. Vous ne trouvez nulle part au monde, en dehors des chrétiens, des personnes qui connaissent le contentement. La piété et le contentement sont un grand gain. Nulle part au monde, vous ne trouverez cela. Un chrétien là, les chrétiens que le Seigneur entoure et garde près de lui, ils ont déjà l'éternité, le ciel et l'éternité dans leur cœur. Comment vous dire rien d'autre? Il n'y a rien au-dessus de là, dans le temps ni pour l'éternité. Tout cela est sérieux, très sérieux, en même temps très sérieux. Mais dans la présence de Dieu, on est toujours grave. La légèreté, la frivolité n'ont pas de place dans la présence de Dieu, pas du tout. Et le sérieux dans la présence de Dieu n'est pas un sérieux affecté et pénible. C'est un sérieux lié au vrai bonheur. Encore un mot sur la vie pratique des assemblées, l'administration de l'assemblée sont des questions qui sont très importantes et désirables que le Seigneur exerce les frères en particulier, et puis les frères et sœurs dans l'ensemble à cet égard-là. Que le Seigneur nous donne à tous, n'est-ce pas, d'être resté à notre place et d'être disposés à être le serviteur des autres et non pas leur maître. Il n'y a pas de maître encore une fois. Et encore une autre vérité, chaque assemblée locale a sa responsabilité. Et c'est important. Une assemblée locale prend une décision, reçoit quelqu'un ou exclut quelqu'un. L'affaire est liée pour toutes les assemblées du monde. Avec quelles précautions on devrait donc procéder à une admission, comme encore davantage, à une excommunication. Et que les éléments qui jouent dans les deux ordres de décision prise, les éléments qui jouent devraient être étrangers à tout ce qui est de la nature humaine. Et des intérêts encore plus forts, des intérêts. Le Seigneur sait tout. Et nous pouvons bien penser que si le témoignage n'a plus la force, la fraîcheur, la puissance spirituelle de celui d'il y a 130 ans, ou 120 et 130 ans, nous pouvons bien être assurés. Ce n'est pas parce que beaucoup de crimes se sont commis dans les assemblées depuis ce temps-là, et peut-être pas un seul, mais parce que de paresse, la paresse entrant, l'amour du monde, la vanité, la préoccupation de soi, le désir de se mettre en avant, ont joué leur rôle qui n'est pas celui du Saint-Esprit, qui ne le sera jamais. Et puis, je voulais dire encore un mot sur une autre partie des ressources que le Seigneur a mises à notre disposition. C'est celle, il y a un ordre, l'ordre pratique, l'ordre même matériel, extérieurement, cet ordre concernant la tenue des frères, des sœurs et des assistants. Il y a là des surveillants, des surveillants. Je passe rapidement, chacun le sait, mais enfin, souvent, il semble que l'on perde de vue les ressources que le Seigneur a mises devant nous, et que après tout, on se dit, oh ben c'est pas ça, c'est pas très important tout ça. Tout est important dans ce qui se rapporte à Christ, au sien et à son assemblée. Les anciens ou surveillants, ce sont des frères, pas des sœurs. Tandis que les serviteurs, eh bien, il peut y avoir des femmes, il y a des servantes. Mais il n'y a pas de sœurs qui soient surveillants. Surveillants ou anciens sont des frères mûrs, qui ont acquis de la connaissance du Seigneur, la connaissance des hommes et des choses aussi, pour donner à porter des jugements sur les situations qui se présentent, et le faire dans la crainte de Dieu. Non pas pour plaire à cet ami-là, c'est mon frère, nous avons peut-être des intérêts matériels, par exemple, bien, il faut agir de telle ou telle manière. Ça, c'est le travail de Satan, il faut bien le dire. Alors, les anciens sont là pour la surveillance, l'ordre, même l'ordre matériel, l'ordre extérieur. S'il y avait même une tenue de quelqu'un dans l'assemblée qui ne soit pas convenable, eh bien, c'est le devoir de l'ancien de s'en occuper, mais de la manière, une manière convenable. Car retenons encore une autre vérité, jamais ne répondre à la chair par la chair. Toujours répondre à la chair par l'esprit. Ça demande des exercices de la dépendance et, pour tout dire, le secours du Seigneur, le secours au moment même. Puis nous avons les serviteurs, serviteurs et servants, sont ceux qui accomplissent ces services. Par exemple, la sœur qui s'occupe du local, eh bien, ne méprisons pas ce service-là. Il est bien possible, sinon probable, que quand le Seigneur manifestera toute chose, on sera loin de la trouver au dernier rang quant à l'approbation que le Seigneur dispensera aux uns et aux autres. Dans la maison de Dieu, il n'y a rien de petit. Rien de petit. Dans la maison de Dieu, il n'y a rien qui... Les valeurs du monde n'entrent pas. Elles sont nulles. Elles ne valent rien. Elles sont nulles. Exactement comme une monnaie qui n'a pas cours, qui n'a pas de valeur dans un autre pays. Elles sont nulles. Mais dans la maison de Dieu, les choses les plus petites sont revêtues de grandeur. Parce que c'est le Seigneur qui fait agir. Et c'est pour le Seigneur que l'on agit. La maison de Dieu est grande, pas à cause de celui qui habite cette maison. C'est pas à cause de ceux qui la font. Nous confondons souvent les choses. Que le Seigneur nous soit son aide, c'est une merveille. Et que le Seigneur fasse que les jeunes, et les jeunes frères qui commencent leur carrière, peut-être qu'elle ne durera pas longtemps, parce que le Seigneur, nous espérons bien qu'il est sur le point de venir, mais que le Seigneur parle aux jeunes frères, les attire à lui, leur montre le chemin où il leur permettra de concilier l'accomplissement de leur devoir nécessaire de la vie courante, nous savons tous ce que c'est que travailler, et concilier cela avec, au moins dans une mesure, une consécration au Seigneur. On n'entre pas dans les choses de Dieu sans consécration. Impossible. On ne peut pas bâcler les choses, on peut bâcler les exercices, les, les exercices, oui, que l'on doit avoir, tant que aujourd'hui on ne peut pas. Sinon, si on s'en occupe de façon superficielle, il n'y a rien, on ne fait rien. Nous savons très bien que de nos jours, la situation est plus difficile qu'il y a un siècle ou 50 ans. Nous savons bien. Et nous savons très bien que les chrétiens qu'il y a 50 ans dans l'ensemble étaient beaucoup plus pauvres et beaucoup moins de ressources extérieures autour d'eux. Eh bien, nous pouvons bien penser, en comparant ces deux époques, on bien penser qu'entre ces chrétiens d'autrefois, dont la vie était dure, mais beaucoup moins compliquée, et en définitive plus libre, et les chrétiens d'aujourd'hui, dont la vie en apparence est beaucoup plus prospère et brillante, nous pouvons penser, et peut-être nous ne comprenions pas, que ce sont ceux d'autrefois qui étaient les mieux partagés. Enfin, que le Seigneur est là pour aider aux siens, je suis le même jusqu'au bout. Il peut aider les siens jusqu'au bout. Et il peut garder un cœur pour lui, près de lui, au milieu de tous les problèmes et les peines, les difficultés, les embarras de la vie courante. Ce monde fait des progrès, bien entendu. Mais nous pouvons bien dire que tous les progrès qu'il fait sont des progrès que Satan fait faire. Et le temps, certainement, le moment est proche, où le désastre fondra sur toute cette civilisation avancée. Il suffit de lire Apocalypse 18 pour se rendre compte un peu que de ce qui se passera alors. Mais veuille le Seigneur faire que ici, pour nous qui sommes ici, pour les siens qu'il a séparés, qu'il a appelés à part, et dont il attend qu'ils soient des témoins ensemble comme individuellement, veuille faire le Seigneur, veuille leur accorder assez de temps pour qu'ils puissent cultiver avec lui avec leurs tâches, en accomplissant leurs devoirs, cultiver auprès de lui assez de communion pour que les rapports de leur âme, de leur cœur et de leur conscience avec le Seigneur demeurent suffisants pour qu'on ne soit pas emporté par le tourbillon de ce pauvre monde qui est perdu et qui est condamné et qui va à sa perdition. Que le Seigneur veuille bénir tout le monde, veuille nous engager à nous attacher à sa parole, à sa pensée, non pas dans la lettre, mais la pensée de l'Esprit. Et en particulier, que les frères, et qui sont les plus responsables, aient à cœur toujours de servir de la part du Seigneur chacune des personnes qui viennent dans les réunions, inconverties comprises, n'est-ce pas, et aussi pour prendre soin de chacune des brebis du troupeau du Seigneur. Évidemment, ceux qui font cela, eh bien, un jour, ils verront qu'ils n'auront pas à le regretter. Mais d'abord, déjà, l'approbation du Seigneur ici-bas est la plus merveilleuse de toutes les récompenses.
Importantes qui ont été placées devant nous par la parole de Dieu, la prière de l'apôtre, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, verset 14, c'est pour cela à cause de l'existence de l'Assemblée de Dieu, de l'Église, c'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen.